Bonsoir, les GAFA sont-ils en train de passer un mauvais quart d'heure? Oui, la forteresse est-elle en train de prendre l'eau? Oui, des GAFA qui sont dans le collimateur de Trump, pour Amazon au moins, de l'Union Européenne, de l'OCDE, du fisc, mais pas que, hein, dans la ligne de mire également, de Bruno Le Maire, des autorités de la concurrence, des utilisateurs de Facebook après l'affaire Cambridge. Bref, est-ce que les nuages s'accumulent? Sale temps pour les GAFA. Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho à la télé, à la radio, chaque soir sur BFM Business, avec de passage à Paris, on en profite à chaque fois. C'est Pascal Saint-Amand, Pascal Saint-Amand qui est avec nous, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Emmanuel Lechypre, éditorialiste économique à BFM Business. Séverin Naudin, créateur de nombreuses boîtes dans le numérique, hein, des boîtes à succès, conseiller innovation également dans le cabinet Tilder et qui avait été aussi conseiller numérique à l'hôtel de Matignon également. Et puis Vincent Renoux qui est avocat fiscaliste associé du cabinet Stella et associés. Alors oui, un tweet en début d'après-midi du président Trump qui s'en prend à Amazon directement, qui ne paierait pas assez d'impôts. Hein. Bon, Cédric Fesch, il est en direct des États-Unis pour BFM Business. Que reproche exactement le président à Amazon? J'ai l'impression quand même il y a un vieux conflit entre eux.
Oui, le reproche général que Donald Trump fait à Amazon, il le faisait avant l'élection, c'est de gagner beaucoup d'argent et de ne pas payer finalement toutes les charges. Son exemple préféré, c'est la poste américaine. Il dit « Amazon fait sa fortune en envoyant des colis par la poste, mais la poste américaine n'en profite pas assez ». La vérité, c'est que la poste gagne beaucoup d'argent grâce au commerce par Internet et donc notamment Amazon. L'autre raison, c'est qu'Amazon fait souffrir le commerce physique, les boutiques familiales, comme dit Donald Trump. Et par ricochet, il ferait souffrir le secteur du bâtiment, parce que si on fait ses courses sur Internet, eh bien, il y a besoin de moins de magasins à construire. Et les petits commerçants, les patrons, les salariés du BTP, ce sont les électeurs de Donald Trump. Ensuite, il y a une raison politique, parce que Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, c'est aussi le propriétaire du Washington Post, qu'il a racheté. C'est un journal très influent, comme le New York Times, et pas franchement favorable à sa politique. Cela dit, le président a raison quand il dit qu'Amazon a une influence énorme sur nos vies, peut-être trop. C'est pour ça qu'il réfléchit à limiter cet empire, par exemple avec une loi antitrust. Mais vous aurez peut-être remarqué qu'on n'a pas entendu Donald Trump sur le scandale Facebook qui pose les mêmes questions d'influence. Mais Donald Trump a toujours reconnu que Facebook lui était très utile pour s'adresser directement à ses électeurs.
Voilà Cédric Fesch donc depuis New York sur pour BFM Business. Merci Cédric. Alors tiens Pascal Saint-Amand, bon il y a probablement des rancœurs personnelles, hein, et Cédric Fesch nous rappelait que Jeff Bezos possède le Washington Post et que le Washington Post, voilà, n'est peut-être pas forcément le meilleur ami de Donald Trump. Mais au-delà de ça quand même, Trump, est-ce qu'il a raison de s'en prendre à Amazon?
Je ne sais pas si Trump a raison de s'en prendre à Amazon.
Qu'il ne paierait pas assez d'impôts.
Ce qui est très intéressant, c'est que la rhétorique est assez similaire à celle des Européens au moment où les Américains critiquent les Européens pour s'en prendre à ce qu'on appelle à tort en France les GAFA.
Bien sûr.
On y reviendra. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la même problématique. Et cette problématique, c'est pas seulement Trump. Aux États-Unis, il y a actuellement un conflit, un contentieux entre Amazon et les États. Les États, puisque les États-Unis sont un État fédéral, donc il y a 50 États, et ces États disent, mais nous, on ne perçoit pas d'impôts parce qu'il n'y a pas de présence physique d'Amazon chez nous. Il faut changer les règles. Et ça monte à la Cour suprême qui prendra une décision dans l'année. Et on voit que c'est une problématique assez similaire à celle des Européens qui disent Amazon ou Facebook ou d'autres ne payent pas assez d'impôts chez nous parce qu'ils n'ont pas de présence physique. D'où le mandat qui a été donné à l'OCDE de sortir un rapport pour dire comment on résout ces problèmes. On en a parlé à Buenos Aires la semaine dernière où les ministres des Finances du G20 se réunissaient et la Commission européenne qui prend des mesures. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'agitation avec des problématiques communes et parfois un peu de confusion. Je ne dirais pas que le président américain est confus, mais on voit qu'il y a des confusions sur quels sont les objectifs et puis on mélange un peu les aspects monopoles qui sont des vraies questions, des aspects antitrust, les aspects un peu populistes et puis les questions techniques assez sévères.
Voilà, on voit tout le monde s'agite, mais est-ce que ça va déboucher forcément sur une réglementation claire, unique ?
on en reparlera. Emmanuel Lechypre.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que le scénario est le même à chaque fois qu'on a une grande révolution, finalement. Hein, et que le temps de l'invention, le temps de l'innovation est un temps extrêmement rapide au regard du temps de la fiscalité et de la réglementation. Et donc, à chaque fois dans l'histoire, ça a toujours été la même chose. On a vu, dans un premier temps, ces nouvelles innovations profiter des opportunités généraient ces nouvelles façons de travailler, de faire du business. Et puis, on a vu qu'à chaque fois, la réglementation, la fiscalité s'adaptait. Et ben là, il me semble que on est en train de sortir un peu de la période Far West, entre guillemets, c'est-à-dire cette période où, finalement, il y a pas de règlement, c'est un peu la
ce trou noir fiscal,
voilà, pour prendre
l'expression
de Pierre Moscovici. Et là, on voit bien qu'effectivement, alors sous des formes peut-être parfois un peu confuses, peut-être parfois un peu désordonnées, peut-être parfois précipitées, on essaye de répondre à toutes ces nouvelles questions que pose tout ce qui tourne autour finalement de la dématérialisation, à la fois dématérialisation des lieux de production, dématérialisation des produits achetés et vendus, et qu'on voit quand même que la riposte est en train de s'organiser, entre guillemets.
On verra si elle est vraiment coordonnée entre l'OCDE, notamment l'Union Européenne. Pas sûr. Oui, Pierre Moscovici qui dénonce un trou noir fiscal qui s'agrandit toujours plus. Vincent Renoux, avocat.
Une chose comique sur la réaction de Trump, c'est qu'il est en même temps en train de permettre aux GAFA de rapatrier les revenus qu'ils ont stockés dans les paradis fiscaux. Donc c'est un petit peu schizophrénique, sa position.
C'est peut-être sa version à lui du ruissellement, c'est-à-dire on rapatrie, puis après la Poste doit en profiter, etc.
Il rapatrie à 15% d'imposition, là où l'administration Obama proposait un taux d'imposition qui était en dessous de 10% sur le rapatriement. Donc c'est pas un cadeau qui est fait ni aux GAFA ni aux autres. Pour mémoire, 2600 milliards de dollars de profits cumulés des sociétés américaines ont été parqués aux Bermudes au cours des 20 dernières années. 2600 milliards de dollars qui auraient dû être taxés à 35%. Ouais. La législation américaine était cassée. Ouais. Donc, il n'était jamais taxé. Et Obama avait dit, on va taxer ça, on parlait de 8-9%. L'administration Trump, en fait, le Sénat, a passé une réforme fiscale qui prévoit que pour le passé, c'est 15%. Donc, c'est un montant qui est non négligeable. Donc, ces entreprises qui n'avaient rien payé vont payer 15% sur le passé. Et à l'avenir, elles paieront au moins 13% sur leurs profits réalisés à l'étranger. Donc, on voit que l'époque où il y avait un trou noir, où elles ne payaient d'impôts nulle part, a pris fin avec la réforme fiscale américaine. Donc les choses sont un peu complexes.
Et Trump meilleur qu'Obama sur ce terrain, notamment.
En fait, sur la réforme fiscale, oui, elle est intervenue. Il y a plein de défauts dans la réforme fiscale.
Ça permet davantage taxer.
Mais en tout cas, ça permettra de taxer ces entreprises qui, jusqu'à présent, avaient un taux effectif d'imposition de 2-3%. Ça passera au moins à 13%.
Alors allez-y, continuez.
15%, c'est plutôt pas mal par rapport au taux français, par exemple, et à ce que les groupes français ont payé en 2017, puisqu'on a approché les 44% avec l'affaire de la contribution sur les revenus distribués. Donc 15%, c'est plutôt pas mal. Mais en effet, et puis
les États-Unis sont davantage enclins maintenant à taxer les GAFA. C'est vrai, j'utilise le terme GAFA, ça va au-delà, bien entendu. Vous nous parlerez d'Uber, de Netflix aussi, bien sûr.
Ma réaction à GAFA, c'est GAFA, il y a des pommes et des poires.
Oui,
il y a des
pommes,
il y a Apple, mais il y a plein de poires, et
il n'y a pas
Netflix, et il y en a plein d'autres.
Bien sûr,
donc c'est une simplification qui parfois nous conduit à viser des entreprises quand en fait, il faut parler, comme vous l'avez dit, de la numérisation de l'économie. Toutes les entreprises se numérisent.
C'est vrai, Naudet.
Non, mais je crois que là, il y a un point intéressant, c'est que il était temps que le régulateur fasse son job de régulateur, et je pense pas qu'il faille mettre en opposition les écosystèmes. Il n'y a pas de riposte pour moi. Le régulateur, il fait son job, et donc il y avait effectivement une zone grise ou une zone blanche, le régulateur met toujours un peu de temps à réagir et à s'adapter au nouveau modèle. Ce que je trouve inquiétant, au-delà du fait que dans la réaction de Donald Trump, il y a une réaction politique. Il déteste Bezos, il est dans la rancœur politique depuis la campagne. Il y a un élément qu'il faut rappeler, c'est que Donald Trump n'aime pas la nouvelle économie, il ne comprend pas la nouvelle économie, il l'a dit. Il ne comprend pas Internet, il l'a dit et répété pendant toute la campagne.
Pourtant, il sort vaguement tous les matins quand il se réveille.
Et c'est là où on touche à un point qui est très important, c'est que même si effectivement on peut se réjouir que le régulateur se saisisse d'un certain nombre de sujets et commence à réfléchir à comment on fait pour s'adapter à la nouvelle économie, en fait, il ne comprend pas la nouvelle économie. Et il comprend pas la nouvelle économie, le président américain ne la comprend pas. La plupart de nos politiques en Europe ne comprennent pas ce fonctionnement, ils ne comprennent pas qu'on est passé d'une économie de ce qu'on appelle en France, vous me corrigerez messieurs, l'établissement stable, c'est-à-dire des actifs très importants, des salariés, c'est pas la nouvelle économie, ils ne comprennent pas les modes de financement, ils ne comprennent pas le temps de la nouvelle économie, c'est-à-dire le temps dans lequel il faut investir et le moment où on commence à avoir du revenu. Et donc on arrivera peut-être au sujet suivant, qui est ce qu'on appelle la taxation GAFA, qui donc ne veut absolument effectivement rien dire, parce qu'on parle pas des GAFA, on oublie tout ce qu'il va y avoir derrière, et des effets de bord désastreux, où on se met maintenant à nous dire qu'on va taxer le chiffre d'affaires d'une entreprise qui est tout sauf la mesure économique valable pour réfléchir à une fiscalité.
Alors, vous avez raison, c'est Vranodé. En effet, c'était la semaine dernière, donc, les Européens, les 27, hein, bon, qui, dans un premier temps, en effet, poussé par la France, hein, l'exécutif européen, l'exécutif pour l'instant, après il faudra que ça soit validé pays par pays, préconise de taxer à 3% les revenus, et non les bénéfices, hein, comme d'habitude. Pour les groupes dont le chiffre d'affaires annuel mondial s'élève à 750 millions d'euros et dont les revenus dans l'UE avec 750 millions d'euros. Et puis ensuite devrait intervenir une réforme de fond des règles relatives à l'imposition des sociétés pour permettre aux pays de l'UE de taxer les bénéfices qui sont réalisés sur leur territoire, même si l'entreprise n'y est pas présente physiquement. On a l'impression que l'UE vous a grillé la priorité, vous, l'OCDE, Pascal Saint-Amand, vous qui menez ce combat depuis plusieurs années. C'est efficace, c'est utile ce qu'il propose, parce que quand on écoute Séverin Audet, bon, ben, finalement, oui, il passe à côté. Preuve qu'ils ne comprennent pas grand-chose, finalement. Je reprends votre
expression. Ah oui, puis je pourrais développer après, mais oui, pour toutes les raisons pour lesquelles, d'un point de vue économique, ça peut devenir une aberration. C'est-à-dire, l'intention politique, elle est légitime, mais elle est très, très politique. C'est presque de la communication, du marketing politique, de dire on va aller taxer les grandes entreprises américaines. Très
ça
bien.
Ça montre qu'on a fait quelque chose.
Ou en tout cas, c'est poser la bonne question. Ouais. Mais après, les effets de bord sont désastreux.
Ils font de la communication, les 27 de l'Union, avec Bruno Le Maire en tête de gondole ou pas, Pascal Saint-Amand?
Pour l'instant, c'est la Commission, c'est pas les 27 ou les 28. Enfin, les 28, ils sont pas encore unanimes là-dessus.
L'exécutif européen avec les 27.
C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'on a une numérisation de l'économie. Les entreprises peuvent faire beaucoup de business sans être présentes physiquement. Or, les règles de fiscalité internationale qui lient les États prévoient qu'un pays ne peut taxer une entreprise étrangère que lorsqu'elle est présente physiquement. Et on voit, Amazon peut faire beaucoup de business sans être présent physiquement. Netflix est un bon exemple, il n'y a aucune présence physique. Et donc, les États sont frustrés. D'autant que pendant très longtemps, ces entreprises ne payaient d'impôts nulle part. Pas même aux États-Unis où elles étaient censées payer des impôts. Et donc, le G20 nous a mandaté à l'OCDE pour faire un rapport et les pays n'étaient pas trop d'accord. Il y a deux sujets principaux. Le premier, c'est le long terme. Comment est-ce qu'on peut changer les règles de la fiscalité internationale pour que les pays continuent à taxer des entreprises même si elles sont pas présentes physiquement? Et c'est compliqué parce qu'on veut pas endommager l'économie numérique tout en permettant à chaque État de taxer ce qui lui revient. Et les États-Unis disent, mais l'algorithme génial d'Amazon ou de Google, c'est nous qui l'avons développé, c'est nous qui devrions taxer. Les Européens disent non, on veut taxer parce que le marché est chez nous. Et les Américains répondent, oui, le marché est chez toi. D'accord, ok, dont acte. Taxons sur le marché, mais c'est vrai aussi pour les sacs Louis Vuitton. C'est vrai aussi pour tous les biens. Si vous voulez taxer parce qu'il y a de la consommation, il faut le faire pour tout le monde, puisque tout est en train de se numériser et demain, on ne pourra pas tracer la frontière. D'où l'aspect un peu pernicieux de l'expression GAFA, parce qu'on a l'impression que c'est un groupe identifié, alors qu'en fait, c'est l'ensemble de l'économie qui se numérise. Ça, c'est pour le long terme et l'OCDE y travaille. On a présenté des pistes de réflexion au ministre des Finances du G20 la semaine dernière à Buenos Aires et on va y travailler. Et l'Europe dit... Ça va prendre du temps parce qu'il faut tout changer, il faut qu'on se mette d'accord à plus de 100 pays.
Bruno Le Maire veut quand même début 2019, mais il oublie que l'Irlande...
Bruno Le Maire dit c'est trop lent, l'OCDE est trop lente, parce qu'il faut se mettre d'accord, c'est trop compliqué. Faisons un truc tout de suite. Et donc la mesure de court terme, la mesure intérimaire on espère, c'est de dire faisons quelque chose tout de suite. Mais on ne peut pas faire quelque chose qui taxe un impôt sur les sociétés parce que les règles ne le permettent pas, les conventions fiscales et tout ça.
Le droit européen ne permet pas une taxe sur les chiffres d'affaires.
Il
y a déjà la TVA.
Le droit européen le permet... Mais pas les règles internationales, pas les conventions fiscales qui lient les pays, ils peuvent pas le faire. Donc ils disent faisons quelque chose d'autre, et ce avec quoi l'idée qu'ils ont eue, c'est on va taxer le chiffre d'affaires. Et vous avez tout à fait raison de dire que le chiffre d'affaires, c'est pas le profit. Le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des recettes. C'est pas le profit. Netflix fait un gros chiffre d'affaires, ils font des pertes. Mais c'est aussi le cas de nombreuses entreprises. Uber, entre autres, Facebook et Google font des bénéfices, mais pas. Et donc les Européens sont, on veut faire quelque chose pour montrer politiquement qu'on agit. C'est un enjeu politique parce qu'il y a beaucoup d'émotions populaires. Donc on est plus dans l'affirmation politique que dans la solution d'un problème technique et politique pour le long terme.
Donc un peu de communication, comme vous le disiez, c'est vraiment... Oui, je disais, le droit ne permet pas une taxe sur le chiffre d'affaires. Il existe déjà la TVA. C'est vaguement anticonstitutionnel, ce que proposerait, si c'est validé par les États, ce que proposent actuellement les 27 commissaires européens.
Oui, c'est de la fiscalité d'exception. Enfin, moi, c'est pas mon métier. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez. Ce qui est très important, c'est que, oui, effectivement, il y a des grandes entreprises américaines qui font du chiffre et qui font pas encore de profit. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que surtout, il y a des centaines de petites et moyennes entreprises de l'économie numérique qui font du chiffre d'affaires, mais qui ne font pas de profit aujourd'hui. Et le plancher qui a été fixé, qui est de 50 millions en Europe, on parle de centaines, voire de milliers d'entreprises françaises.
Il va y avoir... C'est en ça que ça constituerait une aberration économique,
oui,
justement.
Oui, alors je vais donner deux exemples. Ouais. Aujourd'hui, qui sera une catastrophe pour notre économie. Par exemple, le premier exemple, des grandes entreprises françaises qui veulent se transformer, qui achètent aujourd'hui, qui font l'acquisition de start-up pour transformer leur modèle. Une grande entreprise de l'hôtellerie, par exemple, et de l'hospitalité, qui va acheter des dizaines de start-up pour lutter contre Expedia, Booking, etc. etc. Bah, demain, quand ces entreprises vont rentrer, elles vont être immédiatement éligibles à cette taxe de 3%. Et donc, on peut se demander si ça encourage vraiment la transformation de l'ancienne économie. Ça, c'est une première chose. Je vais prendre un deuxième exemple. On a un écosystème extrêmement puissant en France de start-up sur la publicité. Parce qu'il y a eu un modèle français qui est Criteo. Et donc, il y a plein de gens qui ont... Moi, j'en ai créé une il y a quelques années qui s'appelle Socialize et qui était devenue très vite un des dixièmes sur le numéro 10 sur le marché mondial. Évidemment, on atteint très, très vite ce plancher de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'erreur qui est commise, c'est que les GAFA, comme on les appelle, ils ont peut-être des modèles d'EBITDA à 25-50%, mais ces entreprises-là, elles ont plutôt des modèles entre 5 et 10%. Si vous rajoutez 3% sur le chiffre d'affaires, vous diminuez de moitié les profits. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ces entreprises-là, on va se poser des questions au moment d'aller les acquérir, avant et après. Voilà, ça va avoir des effets catastrophiques. Et donc, si on ajoute le fait que les pays qui accueillent les GAFA, c'est-à-dire l'Irlande, le Luxembourg, par exemple, n'ont pas cet écosystème de start-up. Cet écosystème de l'économie numérique et de start-up, il est en France, il est en Allemagne, il est en Angleterre, il n'est pas dans ces pays-là. Donc, c'est la double peine pour l'économie numérique. Donc, c'est là que je dis qu'on ne comprend pas du tout comment fonctionne cette économie.
C'est pour ça, d'ailleurs, que ce type de taxe, quand on a essayé de les créer en France avec la taxe YouTube, a fini par péricliter.
Tout de suite.
Parce qu'on a très bien vu les effets pervers que ça amenait. Et en réalité, le problème, c'est qu'on est en train de mélanger les genres, puisqu'on a un problème d'impôt sur les sociétés, et on le transforme en problème de fiscalité indirecte et de fiscalité discriminatoire, puisqu'on va taxer l'économie numérique, qu'est-ce que c'est d'ailleurs, et pas les autres. Donc ça n'a pas vraiment de sens, je pense que c'est une mauvaise idée.
Oui, Emmanuel Le Chypre.
En plus, d'abord, il y a un problème purement d'applicabilité, c'est-à-dire comment vous allez découper les frontières ou pas de l'économie numérique. Et puis, sur le plan plus macroéconomique, concrètement, la taxe sur le chiffre d'affaires, c'est pas non plus une bonne taxe, dans la mesure où, au final, en général, c'est le consommateur qui finit par la payer. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez deux possibilités. Soit vous avez des entreprises qui ont un pouvoir de marché très élevé, ce qui est le cas on va dire GAFA. Ce qui est le cas de ces entreprises, et donc au final, ça va pas les pénaliser, et c'est le consommateur qui paiera. Et par contre, si vous avez affaire à des plus petites entreprises qui n'ont pas, elles, de pricing power, c'est-à-dire de capacité à fabriquer leur prix, eh ben, elles devront directement le supporter dans leur marge. Et là, alors ça s'ajoute à la double peine que vous évoquiez déjà. Et donc, on est quasiment dans un système de triple peine. Sachant que, pour terminer là-dessus, en plus d'être absurde sur le plan économique, on l'a dit, le fait quand même d'instaurer ce système intermédiaire va retarder d'une façon ou d'une autre la mise en place
définitive
d'une solution qui est une pérenne. Solution plus pérenne, parce que vous voyez bien à quel point ça va être compliqué de se mettre d'accord, ce qu'il va falloir mettre en branle comme énergie pour arriver à un consensus,
unanimité,
et qu'effectivement là on fait une espèce d'étape intermédiaire qui n'est pas efficace du tout et qui est coûteuse en capacité de négociation.
Le contexte politique, Pascal Saint-Amand, puisque vous qui êtes dans un pays différent quasiment chaque jour, quand on voit l'Union européenne qui cherche à s'en prendre aux géants américains, alors qu'ils soient Netflix, qu'ils soient Apple, Facebook, tout ça, enfin bon, Uber, etc. Bon, ce sont des boîtes quand même, pas forcément ni de Papouasie, ni d'Uruguay, ce sont des boîtes américaines. L'Union européenne dit que ça ne vise pas que les grandes boîtes US de la tech. Bon, très bien. Dans le contexte de guerre commerciale que veut mener Trump vis-à-vis du reste du monde, en quoi ça peut être préjudiciable, justement? Les Européens appuient un peu sur la pédale de frein ou pas?
Il y avait deux sujets au G20 de Buenos Aires. Le commerce, les impôts. Ouais. Et alors on voit, il faut aussi comprendre les Européens, on voit que ces entreprises ont été extrêmement agressives au cours des 20 dernières années, ont payé pratiquement aucun impôt, et à chaque fois qu'on disait il faut trouver une solution pérenne, c'était non, les règles sont parfaites. Et donc il y a un vrai agacement qui peut justifier une mesure. Après la mesure, il faut qu'elle soit calibrée, manifestement le second seuil qui est de 50 millions d'euros, on ne sait pas trop d'où il sort, c'était pas dans le rapport initial de l'OCDE, on disait 750 millions d'euros, ça permet de limiter les dégâts d'une mesure de court terme, une mesure de court terme peut être compréhensible. Maintenant, elle est compréhensible par une partie des Européens, notamment l'Europe continentale et le Royaume-Uni, qui sont très allants là-dessus. Elle n'est pas du tout acceptée par les États-Unis, parce que ça vise les États-Unis, mais aussi la Chine, hein, qui représente une partie significative de l'économie numérique, de ces grandes entreprises, Tencent et les autres. Juste. Et donc, vous avez un antagonisme, et nous, à l'OCDE, on essaye d'être, en quelque sorte, comme pour traduire une expression anglaise, les adultes dans la pièce, the adult in the room, c'est celui qui essaye de raisonner les uns et les autres en disant attention, mesure intérimaire, on peut comprendre qu'il y a un agacement et qu'il y ait peut-être la nécessité d'envoyer un signal, mais surtout que ça n'endommage pas la possibilité que se mettent tous d'accord pour faire face à un problème de régulation. Il y a une nouvelle technologie, il y a un impact majeur sur l'ensemble de l'économie, il faut adapter des règles qui ont été élaborées en 1928, donc il faut les mettre, il faut les actualiser. Tout le monde est d'accord là-dessus. Comment on les actualise? Pour ça, il faut limiter les antagonismes, et donc on espère que cette mesure sera vraiment temporaire dans l'Union européenne.
Ce que vous nous dites, il ne faut surtout pas mettre tout le monde dans le même sac, les Amazon, les Google, les Facebook, les Uber, les Netflix. Les États-Unis sont d'accord pour taxer, mais ce qu'ils veulent pas, c'est cibler les compagnies numériques. Je reprends la déclaration de Steven Mnuchin. Les États-Unis s'opposent fermement aux propositions de cibler les compagnies numériques.
Ils disent, pourquoi vous, Européens, voulez-vous taxer Google? Oui. Les Européens disent, parce qu'on donne de la donnée personnelle. Les gens fournissent des données personnelles. Alors c'est vrai, ça va marcher pour Google, mais ça va pas marcher pour Amazon. Et les gens vont pas comprendre. On va taxer les entreprises numériques, et en fait, on va taxer Facebook, Google, Uber et Airbnb, celles pour lesquelles il y a de la donnée personnelle. Et l'ouverture des États-Unis, qui est extraordinaire. L'administration Obama, c'était gentil Obama, c'était on veut pas parler du sujet. L'administration Trump, dont tout le monde dirait pas spontanément, tiens, ils sont gentils, Steve Mnuchin, disent on est prêt à discuter. Pourquoi vous voulez les taxer? Parce que vous êtes le marché. Vous avez raison. Il y a un problème. Les pays de marché ne taxent pas assez. Donc, changeons les règles internationales pour que tous les pays de marché taxent plus, mais pas seulement pour le numérique. Parce que d'ailleurs, tout est en train de se numériser. Et c'est ça le débat qui n'est pas encore vraiment dans l'espace public.
Ça pourrait concerner quel autre segment de l'économie?
Toutes les entreprises, tous les segments de l'économie, si vous vendez sur un marché depuis l'étranger, le pays où vous vendez devrait récupérer plus de droits d'imposer. C'est ça la problématique, qui est un changement assez radical qu'on a essayé de faire avancer au cours des 10 dernières années. Les États-Unis avaient bloqué. Aujourd'hui, ils débloquent le sujet.
Expliquez-nous ce point, justement. Vous, l'avocat fiscaliste chez Stellin, Vincent Renaud-Houffant.
Je crois que vous mettez l'accent de façon très juste sur la question finalement des prix de transfert. Voilà. Et l'évolution de cette doctrine autour des prix de transfert qu'a conduit l'OCDE avec notamment ce qu'on appelle la value chain analysis et donc la reconnaissance de critères de création de valeur locaux. Et c'est tout un débat aussi que mènent par exemple la Chine ou l'Inde. Et je crois que notre problème par exemple en France, c'est qu'on n'a pas percuté sur le fait qu'on était devenu une économie en développement en matière numérique et qu'on avait tout intérêt à reconnaître le poids du marché. Et dans nos contrôles fiscaux, notamment de groupes français, on est dans la situation complètement inverse. C'est-à-dire on veut tout rapatrier en France. Et en fait, cette vision-là, elle est finie. Et il faut une évolution internationale pour aller vers une reconnaissance de critères de création de valeur, notamment locaux.
Les revenus, le nombre d'utilisateurs.
Non, les critères, c'est où est-ce que la valeur est créée. Oui. Lorsque vous vendez un sac Louis Vuitton, est-ce que la valeur est créée en France parce qu'il y a le bon goût, il y a le design, ou est-ce qu'elle est aussi créée en Chine parce qu'il y a l'achat? Où est-ce que la valeur de Google est créée? Est-ce que c'est par l'algorithme qui est à Mountain View en Californie, ou est-ce que c'est parce qu'on clique en France? La doctrine aujourd'hui, qui était soutenu par les États-Unis, les Français et les autres, c'est-à-dire tout est créé dans le pays de résidence de l'entreprise, là où il y a le siège, là où on fait l'incorporel, là où on a le bon goût ou là où on a l'algorithme. Et aujourd'hui, les États-Unis disent, ceci s'est dépassé, on est prêt à discuter avec vous, puisque vous lancez le débat sur Google. Pourquoi vous voulez taxer Google ou Amazon ou les autres? Parce que vous êtes un marché, et donc dans la chaîne de création de valeur, il faut reconnaître qu'il y a plus de valeur dans les marchés, ce qui vous permettra de taxer Google, ce qui permettra aux Chinois peut-être de taxer un peu plus LVMH, et ce qui permettra aux États-Unis de taxer les entreprises européennes davantage qu'ils ne le font aujourd'hui. C'est ça le débat, c'est un débat de prix de transfert, ça paraît technique, en réalité c'est très politique.
Bon, on se retrouve dans un instant passionnant encore ce soir avec Pascal Saint-Amand, Séverin Audet, Vincent Renoux, Emmanuel Lechypre. Vous nous direz d'ailleurs ce que vous proposez, vous, l'OCDE, parce que vous nous dites on a fait des propositions la semaine dernière à Buenos Aires, il faudra y revenir. A tout de suite sur BFM Business.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors là, la taxation des GAFA, mais au-delà, bien sûr, il n'y a pas que Google, Amazon, Facebook, Apple, il y a aussi Uber, il y a aussi Netflix, enfin bref, vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Bon, depuis le temps qu'on en parle, on voit un certain nombre d'organisations, de politiques aussi, il y a beaucoup de politiques aussi, de communication. On nous disait d'ailleurs tout à l'heure Séverin Audet, au niveau donc de l'Union européenne, avec cette proposition de taxe à 3% en attendant évidemment d'une réglementation plus pérenne. Oui, le statu quo actuel ne peut plus durer. Pascal Saint-Amand, donc le monsieur fiscalité de l'OCDE, directeur du centre de politique et administration fiscale de l'OCDE. Vous étiez un peu au cœur du G20 de Buenos Aires la semaine dernière, donc en Argentine. Qu'est-ce que vous proposez comme nouvelle règle fiscale donc d'ici 2020?
On propose de travailler parce que les pays sont pas d'accord. Donc le rapport que l'on a produit au G20, qui nous avait été demandé l'an dernier par Monsieur Schäuble, ministre des Finances allemand, on devait initialement produire un rapport en 2020. Il a dit non, on le veut en 2018. Donc on a fait un rapport. Il dit quoi? Il dit la numérisation de l'économie, ça concerne pas que les GAFA, ça concerne aussi des entreprises très traditionnelles, General Electric, mais aussi les entreprises automobiles et autres. Tout est en train de se numériser et donc il n'y a pas vraiment une façon d'appréhender un critère qui permettrait de taxer un certain nombre d'entreprises. Second volet, sur le long terme, il faut naturellement revoir les règles. La présence physique comme étant un déclencheur d'imposition, ça ne marche plus quand on peut faire beaucoup de business sans présence physique. Troisième volet, il va falloir décider de comment on met les profits. Où on met les profits? Et cette question de prix de transfert, où les États-Unis font une ouverture et où les Européens deviennent un peu frileux en disant « Mais non, on n'est pas sûr qu'on veut aller là parce que ça pourrait avoir un impact sur nos entreprises en Chine et ailleurs. On veut bien taxer les Américains, mais on veut pas que les Chinois nous taxent. » Et donc là, il y a un problème de principe dans l'approche. Et donc le rapport dit, il y a une question essentielle, c'est la présence physique, il faut dépasser ce critère, il faut qu'on se mette tous d'accord, et tout le monde est d'accord pour travailler, même si on comprend pas tous la même chose. Il faut changer les règles d'allocation des profits. Et en dernier lieu, notre rapport dit, les mesures de court terme, c'est sans doute utile politiquement dans un certain nombre de pays, mais faites attention parce qu'il y a plein d'inconvénients, vous les avez évoqués, ça va être supporté par les consommateurs, ça risque d'endommager les start-up dans des pays qui essayent précisément de les développer.
De les attirer, bien sûr.
Et si vous faites quelque chose de très ciblé, de très limité, mais qui alors court le risque d'être ciblé sur des entreprises américaines à un moment de guerre commerciale. Donc il n'y a rien d'idéal là-dessus. Si vous faites quelque chose, soyez
très prudent. Ça pèse sur les négociations, cette guerre commerciale, je vous posais la question tout à l'heure.
Ça fait partie du paysage qui n'est pas très réjouissant actuellement.
Ouais. Donc pour l'instant, du travail, mais pas de décision.
Pour l'instant, les pays du G20 sont mis d'accord pour trouver une solution d'ici 2020. Et la solution, c'est soit la solution américaine en disant on change toutes les règles pour tout le monde et on taxe davantage à la consommation. Et on n'a pas encore vu ce qu'était une proposition européenne. Il y a un projet de directive qui a été mis sur la table la semaine dernière. On ne voit pas trop comment il fonctionne. Je crois Pierre Moscovici l'a dit lui-même, c'est une contribution à la réflexion globale. Notre espoir, c'est que ces mesures de court terme qui risquent de mobiliser l'attention des pays, notamment des 28 pays membres de l'Union européenne immédiatement, qu'elles ne détournent pas l'attention complètement de la nécessité de trouver une solution de long terme qui soit neutre fiscalement, qui n'endommage pas les PME, qui favorise le développement de la numérisation de l'économie et qui permette aux États de taxer ce qui leur revient, et sans doute il revient davantage de droits de taxer aux pays de consommation, là où les clients d'Amazon sont, là où les gens qui cliquent sur Google sont, là où celui qui va regarder le film Netflix se trouve, et moi dans mon application quand je commande en Uber.
Et qu'il ne soit pas une mesure prise comme ça, un petit peu sous l'émotion.
Et qu'il ne soit pas, on veut taxer les GAFA. GAFA parce que la fiscalité, elle a jamais été conçue pour taxer une entreprise.
Voilà. Emmanuel Le Chypre avec nous également.
En plus, bon, là, on a déjà dit à quel point c'était pas une bonne idée de se précipiter sur le plan de la méthodologie. Et en plus, ce qui est paradoxal, c'est on fait tout ça pour des sommes qui sont quand même relativement dérisoires. Parce que ça, alors 5 milliards d'euros, ça peut paraître beaucoup, mais quand vous regardez les autres sujets d'évaporation fiscale qui sont sur la table, on est sur des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus grands. On parlait de la TVA tout à l'heure, mais les fraudes à la TVA chaque année en Europe, c'est au moins une vingtaine de milliards d'euros. Plus que ça même. Le sujet, par exemple, qui consiste à savoir comment vous appliquez la TVA sur tous les produits que vous achetez par Internet. C'est-à-dire qu'en gros, tous ces produits qui viennent de Chine, dont vous savez pas trop quelle est l'origine, etc. Il y en a plein dont la traçabilité n'est pas assurée. Et il y en a plein qui ne supportent pas les taxes qu'ils devraient supporter. Donc, il y a une espèce de d'obsession là, dont on voit les dégâts qu'elle pourrait faire.
C'est plus moral, quoi, c'est ça?
Bah, je sais pas.
En tout cas, l'Union européenne, peut-être pour se donner... bonne conscience. Ils disent cette taxe de 3% sur les revenus, ça permettrait de l'affecter au budget européen et rapporter la moitié du besoin de financement provoqué par le départ du UK. C'est le président de la République qui disait ça, notre président à nous, Emmanuel Macron.
Mais là, c'est de l'épicerie, là. Concrètement, on parle d'épicerie.
C'est vrai, Naudet, Vincent Renoux, qui est avocat fiscaliste. Il y a de profondes divisions, on voit, entre les États. Pourquoi les différents politiques, ils échouent, ils n'arrivent pas à trouver, finalement, de modus operandi, modus vivendi, je ne sais pas, donc, pour taxer toutes ces entreprises, à votre avis?
Non, mais la fiscalité en Europe, c'est un vieux serpent de mer. Ce qui est un peu inquiétant ici, je voudrais juste redire une chose quand même qui est très importante, parce que on a l'impression, quand on tient le discours qu'on tient tous sur ce plateau, qu'on est pro-GAFA. Cette taxe, elle va endommager l'écosystème de centaines de TPE, de PME, d'entreprises qui font demain le dynamisme de l'économie française et de l'économie européenne. Les vieilles entreprises, le modèle économique ne se transformeront que parce qu'elles pourront acquérir des entreprises innovantes. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Et donc, ce qui permet de dire par ailleurs que l'année dernière, si les investissements ont triplé sur les startups en France, c'est grâce aux fonds étrangers, à des investissements de fonds étrangers dont vous parliez tout à l'heure, comme Tencent par exemple, qui a encore financé une startup française la semaine dernière. Si on taxe ces startups à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires, les fonds étrangers vont se demander si elles ont vraiment intérêt à venir investir en France et en Europe. Ce qui m'inquiète, pour répondre à votre question, c'est que il y a un risque quand même qu'un certain nombre de petits pays qu'on citait tout à l'heure, comme l'Irlande ou le Luxembourg, se posent la question finalement d'accepter ce bricolage fiscal, cette fiscalité d'exception ou temporaire, pour être plus poli ou politiquement correct, parce que derrière, les mécanismes que vous nous expliquerez peut-être, de CCTB
on va pas faire trop technique.
Axis en français, c'est pas plus compréhensible. C'est l'assiette consolidée commune à l'impôt sur les sociétés, c'est l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés dans l'Union européenne.
Et donc ces mécanismes-là qui permettraient de répartir en réalité le profit collecté en Europe de manière beaucoup plus égale, leur fait à mon avis beaucoup plus peur que des mesures temporaires qu'ils seraient susceptibles d'accepter pour faire reculer ces mesures d'harmonisation fiscale et gagner 5 ou 10 ans.
Vincent Renoux.
Oui, je crois que déjà, un point qui est très important à comprendre, c'est qu'il ne faut pas faire une fiscalité des GAFA ou une fiscalité du numérique, comme on n'a pas fait une fiscalité de la pharmacie ou une fiscalité du luxe.
Bien entendu.
Et déjà, ça, les politiques ne l'ont pas compris, ne le comprennent pas.
Ça serait illégal, bien entendu.
Et après, le deuxième point, c'est que pour lutter contre ce qu'on appelle les GAFA, dans ce cas-là, il y a un certain nombre de montages artificiels qui existent, et on a des outils pour les combattre, ces montages artificiels. Et là, on n'est plus dans la problématique de la fiscalité du numérique. En fait, on est dans un montage artificiel, comme des non-GAFA l'ont fait. On peut penser à Starbucks ou à McDonald's. C'est des problématiques, en fait, d'une forme d'évasion fiscale à cause de cette artificialité. Donc cet élément-là aussi doit être pris en compte.
Alors, je vais faire le défenseur quand même du gouvernement français et de l'Union européenne. Il y a un problème. On est tous d'accord qu'il y a un problème depuis plusieurs années. ces entreprises et plus globalement les entreprises qui se numérisent bénéficient de règles qui sont dépassées. Et donc ça leur permet de localiser leurs profits dans des paradis fiscaux. On a essayé de lutter avec le projet BEPS, hein, lutte contre l'érosion des bases fiscales et les transferts des bénéfices, un gros projet du G20. Mais même si on met fin à l'aspect paradis fiscal, il n'y a pas de présence physique, je ne suis pas taxé, alors même qu'il y a une activité majeure. Et ces entreprises ont été extrêmement agressives avec les gouvernements, avec nous. Je me souviens de réunions chez Google il n'y a pas si longtemps en Californie où on me disait « Mais moi, mon business, il n'est pas différent de vendre des écharpes françaises en Chine, donc tais-toi et puis reviens quand on aura réfléchi. Enfin, » des attitudes qui sont franchement pas très agréables et qui ne conduisent pas les gouvernements à dire bah, « Tiens, on va discuter pendant des années, d'autant que les pays ne sont pas d'accord, d'autant que les Irlandais vont dire « Mais ça va prendre beaucoup de temps. » D'où la nécessité de prendre des mesures immédiates. Il faut juste qu'elles soient calibrées si elles sont prises d'une manière qui n'endommage pas le réseau des PME, soit en faisant payer les PME, soit en renchérissant les coûts d'accès des PME à des services numériques.
Bon, les gens ne vous aiment pas en général quand vous vous déplacez quelque part, hein, que ce soit dans un paradis fiscal au Panama ou chez Google. En général, vous êtes perçu avec des bouquets de fleurs, en général, Pascal.
Très antipathique. Ouais.
Bon, non, vous êtes très sympa. Juste un mot, parce que tout ce qu'on se dit, bon, ce combat donc de l'Union européenne, bon, alors plus ou moins bancal, bon, le fisc aussi, hein, qui poursuit également, donc, eh bien, Amazon, les autres, etc. On voit les autorités de la concurrence, hein, qui commencent aussi très actives, hein, qui demandent bien aux uns aux autres de rendre des comptes, les Facebook, les Amazon, Apple plutôt. Bon, Bercy qui saisit aussi la justice. Généralement, là, il y a un sale temps autour de ces entreprises ou pas? Séverin Naudet, vous qui êtes conseiller innovation, notamment dans le cabinet Tilder, est-ce que la forteresse commence un petit peu à s'issurer ou c'est un orage ponctuel? C'est pas où c'est une tendance pérenne, à votre avis, c'est quoi là?
Non, mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire d'abord qu'on est arrivé à un moment où il faut plus de régulation de la nouvelle économie. Et Mark Zuckerberg l'a dit lui-même la semaine dernière quand il a réagi à la crise que Facebook a traversée la semaine dernière. Donc on est tous d'accord pour dire que quand il y a de nouveaux modèles, que ces nouveaux modèles ont cette puissance économique, parfois même une puissance qui va au-delà de l'économie, puisque là on voit bien que quand il s'agit de nouveaux médias, ça a une influence sur les démocraties, sur le cours des élections peut-être, en tout cas sur l'information et sur la manière dont les citoyens consomment l'information.
Il y a aussi l'affaire Cambridge aussi, bien sûr.
Donc oui, il faut se poser toutes les questions nécessaires de savoir comment on régule cette économie, comme on a régulé l'économie hier, on régulera l'économie demain.
Donc c'est un orage ponctuel, elles ne sont pas...
C'est un réajustement, c'est la réalité.
On voit des marchés qui doutent en ce moment. Notamment.
Oui, mais les marchés, alors, il y avait un analyste ou un investisseur qui disait chez vous tout à l'heure de manière extrêmement juste qu'il faudrait prendre au moins les trois prochains mois pour analyser avec un peu de recul, de tranquillité la situation pour savoir si les usagers continuent de faire confiance à leur service habituel et à ce moment-là on pourra se reposer la question de savoir si c'est une crise conjoncturelle ou si c'est une crise structurelle. Moi je crois que c'est une crise conjoncturelle, que le monde a besoin de s'adapter, qu'il faut se poser les justes questions de la régulation.
Ce qui est structurel, vous avez tout à fait.
C'était Gérard Moulin qui le disait chez Intégral Bourse.
Ce qui est structurel, c'est la régulation. Mmh. Le besoin d'une régulation à plein de titres. Gestion des données personnelles, monopole, fiscalité, il faut plus de régulation.
J'ai encore juste une question à vous poser, Pascal Saint-Amand, puisqu'hier, le gouvernement français révélait son plan contre la fraude, et c'est Mathieu Jolivet qui vous en parlait donc hier soir dans ses décodeurs de l'Écho. Alors, il y a création d'un service d'enquête spécialisé à Bercy, publication du nom des plus gros fraudeurs, et puis une révision de la liste de Bercy des paradis fiscaux pour la rendre plus pertinente. Je cite Bercy. Une liste aujourd'hui uniquement basée sur le critère de la coopération administrative, et Bercy veut intégrer les critères retenus par l'Union européenne, à savoir la transparence fiscale, l'équité fiscale et la mise en œuvre du plan de lutte contre l'optimisation fiscale, donc BEPS, c'est-à-dire c'est vous-même. Hein. Il reste donc des paradis fiscaux, alors qu'on nous a dit en permanence « mais il n'y a plus de paradis fiscaux, vous allez voir ce que vous allez voir ».
Paradis fiscal, c'est un peu comme GAFA, c'est le terme piège.
Ouais.
On sait tous ce que c'est, en fait personne ne sait décrire ce que c'est. En fait, le sujet c'est quoi?
Parce que sur la liste de la France, il y a quoi? Il y a Brunei, Nauru, le Panama, les îles Marshall, le Guatemala et le Botswana. La liste de l'Union européenne, on comprend en 9. Bon.
Qu'on prend 9, dont la Mongolie ou la Namibie, qui sont tous sauf des paradis fiscaux, donc on voit qu'on a un petit problème. Le problème des listes, Et c'est très dur à expliquer, notamment à des journalistes, une liste qui marche, c'est une liste qui est vide. Mais alors dire à un journaliste qu'une bonne liste, c'est une liste vide, alors là, vous faites un bide, hein, complet, immédiat. Pourquoi une liste qui marche et une liste vide? C'est parce que vous avez fixé des critères, vous avez demandé au pays de les satisfaire, et s'ils satisfont les critères, ils doivent pas être sur la liste. Mais alors là, vous, ça vous frustre, parce qu'il n'y a pas de nom à citer. Vous personnellement.
Non, mais je veux dire, par exemple, pourquoi Brunei, Nauru?
Aujourd'hui, la liste française, c'est si vous nous donnez de l'information, vous n'êtes pas sur la liste. Ouais. Si vous nous donnez de l'information bancaire et autres, si vous n'en donnez pas, vous êtes sur la liste. Les principaux paradis fiscaux, les pays à secret bancaire, ils donnent de l'info à la France, ils ne sont pas sur la liste. Et il n'y a que le Guatemala, parce qu'ils sont complètement paumés, parce que vous avez Brunei, qui n'y a pas forcément, il n'y a pas beaucoup de Français qui sont à Brunei pour cacher, qui sont sur la liste. Donc c'est un peu frustrant de se dire, on rate quelque chose. Donc le ministre de l'Action et des Comptes Publics dit, on va élargir les critères, comme l'Union européenne l'a fait, et on va prendre en compte la lutte contre cette optimisation fiscale agressive des entreprises. Si un pays, il a des régimes qui attirent les entreprises, et ces régimes, ils sont complètement déconnectés de l'économie locale, c'est juste pour piquer de la base taxable à mes petits camarades, je vais mettre ce pays sur la liste. Donc c'est plutôt une bonne idée de se caler sur ce que fait l'Union européenne en critères, même si sur l'Union européenne, on peut parfois être un peu frustré de voir que la Namibie ou des pays qui ne sont pas très pertinents en termes d'évasion fiscale se retrouvent là-dessus. Il y a des fois le risque de dire une liste, elle a du sens, ce qu'avait dit le commissaire Moscovici, s'il y a au moins 9 pays dessus. Bon, ben non, une liste, elle est pertinente si j'ai les bons critères. Et si les critères sont objectifs et qu'il n'y a personne
Moscovici,
dessus...
Moscovici, il a les oreilles qui sifflent, hein,
ce soir. Non, pas du tout. Il a fait progresser les choses dans l'Union européenne sur ce sujet. Bon. C'était très important. Maintenant, il faut que les choses soient appliquées de façon objective. Et surtout, c'est pas très juste, mais pour qu'une liste marche, il faut changer les critères régulièrement. Elle se vide, puis on fixe un nouveau critère, elle se re-remplit, elle doit se revider. Donc c'est un mécanisme un peu complexe, et souvent, en simplifiant les choses politiquement, ben, on est un peu moins objectif et ça peut provoquer des problèmes. Moi, quand je vais dans les paradis fiscaux qui ont fait tout ce qu'on leur demandait de faire et que finalement, ils sont blacklistés parce qu'il faut un certain nombre de pays sur la liste, je vous dis, j'ai un succès d'estime.
Dingue, oui. Ah, Pascal Saint-Amand, il est là, génial. Boum, un coup de fusil. Bon, j'espère que non. Merci, en tout cas, voilà, Pascal Saint-Amand, donc, eh bien, de passage en France, hein, justement, entre deux escales dans des vrais, faux ou pas paradis fiscaux. Merci à vous, c'est le monsieur fiscalité de l'OCDE. Emmanuel Lechypre, avec nous, éditorialiste à BFM Business. Séverin Naudet, donc, créateur de nombreuses boîtes dans le numérique, conseiller innovation dans le cabinet Tilder. Et puis Vincent Renaud, avocat fiscaliste, associé du cabinet Stellin et associé. On revient très vite avec les décodeurs de l'écho. Bon long week-end de Pâques à toutes et à tous.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
AI may be the most important new computer technology ever, but AI needs a lot of processing speed, and that gets expensive fast. Upgrade to the next generation of the cloud, Oracle Cloud Infrastructure, or OCI. OCI is the single platform for your infrastructure, database, application development, and AI needs. Do more and spend less, like Uber, 8x8, and Databricks Mosaic. Take a free test drive of OCI at oracle.com/insightful. Oracle.com/insightful.